Radio France Internationale. Il est 6h30 à Paris, 2h de moins en temps universel. Et bonjour Xavier Besson.
Bonjour Jeanne, bonjour à tous.
Et dans votre journal, on s'intéresse à la position des pays africains sur le conflit entre Israël et l'Iran.
Rares sont ceux qui ont pris officiellement position, notamment après l'implication directe des États-Unis ce week-end. On essaye de comprendre pourquoi, alors que le président américain Donald Trump a annoncé cette nuit un cessez-le-feu, pour le moment confirmé ni par l'Iran ni par Israël. Dans ce journal également, le chef de l'armée ougandaise qui menace de s'en prendre au groupe armées Wazalendo dans l'est de la RDC. Les autorités centrafricaines, elles se veulent rassurantes à propos de l'état de santé du président Touadéra. Nous serons aussi au Kenya où la justice annonce la mise en cause de 6 personnes, dont 3 policiers, après la mort d'un homme en détention à Nairobi. Et dans une dizaine de minutes, le journal des sports avec Antoine Grenier. On parlera de Coupe du Monde. Coupe du Monde des clubs en ce moment aux États-Unis du football et Coupe du Monde de 1995 en rugby. Il y a 30 ans, l'Afrique du Sud remportait le premier de ses 4 titres mondiaux. L'éventualité d'un cessez-le-feu au 12e jour ce mardi de la guerre entre Israël et l'Iran. Alors que les échanges de missiles se sont poursuivis dans la nuit, de grosses explosions ont encore été entendues il y a quelques heures à Téhéran et en Israël. Les services de secours font état de plusieurs morts ce matin après des salves de missiles iraniens. Donald Trump, dans la nuit, a assuré que les deux belligérants avaient accepté un cessez-le-feu. Dans la foulée, le chef de la diplomatie iranienne précise qu'il n'existe à ce stade pas d'accord, mais que Téhéran n'a pas l'intention de poursuivre ses frappes si Israël arrête son agression. Côté Israël, justement, pour l'heure, pas de confirmation de cette annonce du président américain. Des États-Unis qui ont frappé directement les installations nucléaires iraniennes dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Depuis, peu de pays africains ont réagi officiellement. L'Afrique du Sud l'a fait, par exemple, nous vous en parlions hier. Et pour Alioune Badara Diop, qui est professeur de sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ses silences officiels s'expliquent facilement par les pressions américaines et par la peur des sanctions.
Les opinions publiques ne sont pas indifférentes, loin de là. Maintenant, il y a une différence entre leur désapprobation et puis la posture officielle des dirigeants qui, eux, regardent plutôt les contraintes structurelles qui pèsent sur leurs États par rapport aux États-Unis. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a très peu de dirigeants qui oseraient, entre guillemets, affronter ouvertement Trump et les États-Unis, parce que les sanctions risquent d'être brutales. Déjà, Trump a commencé à menacer d'officialiser une liste élargie à beaucoup de pays africains qui seraient interdits de visa aux États-Unis. Donc, vous comprendrez parfaitement qu'un diplomate, un dirigeant africain dans ce contexte-là, fasse profil bas, évite d'apparaître comme quelqu'un qui ouvertement prend position pour l'Iran au détriment d'Israël et des États-Unis. Les États-Unis ont financé pendant de longues années, à travers l'USAID, des programmes économiques et donc le gel de ces programmes déjà justifie effectivement, compte tenu de la conjoncture économique difficile, que les gens veuillent encore garder ces relations diplomatiques avec les États-Unis et ne pas heurter leur susceptibilité en prenant une posture ouvertement critique qui signifierait effectivement qu'on est basculé dans l'autre camp.
Le professeur Alioune Badara Diop, professeur de sciences politiques, joint par Ouda Ibrahim, et sur le conflit entre l'Iran et Israël. Les dernières informations sont à suivre dans un article mis à jour en temps réel sur RFI.fr.
RFI.
On y trouve des messages personnels, des pensées, beaucoup, mais aussi des invectives, souvent, et des menaces, parfois, rarement, suivies des faits. C'est le compte sur X de Muhoozi Kainerugaba, le fils du président ougandais Yoweri Museveni, et chef de l'armée de l'Ouganda, alors que ce week-end à Kinshasa, la République démocratique du Congo et l'Ouganda ont signé un protocole d'accord pour poursuivre leur opération militaire conjointe dans la province de l'Ituri contre le groupe armé ADF. Muhoozi Kainerugaba a annoncé, lui, son intention de s'en prendre au Wazalendo, pourtant allié des FARDC dans plusieurs zones de l'Est congolais. Alors, comment comprendre cette prise de position inattendue ? Élément de réponse avec Patient Ligaudy.
Le général Muhoozi Kainerugaba
affirme que le Wazalendo attaque des civils ougandais dans des zones frontalières où les troupes de l'UPDF ne sont pas présentes. Il dit qu'il n'attendra pas pour les affronter, promet que ceux qui tuent ses compatriotes paieront et appelle même ses combattants à se rendre. Sur le terrain, aucun incident impliquant directement les Wazalendo contre des civils ougandais n'a été documenté ces derniers jours. La seule attaque évoquée remonte à plusieurs mois. Selon des sources militaires, une embuscade attribuée à des éléments identifiés comme Wazalendo aurait coûté la vie à au moins 4 soldats ougandais dans le territoire de Lubero, au Nord Kivu. Par ailleurs, la sortie médiatique du général Muhoozi soulève au moins 2 problèmes opérationnels. D'abord, tous les groupes se revendiquant Wazalendo ne sont pas clairement identifiés, reconnaissent des sources dans l'armée congolaise. Ensuite, Muhoozi Kainerugaba multiplie les positions unilatérales, quitte à remettre en cause des accords formellement signés, notent certains officiers FRDC. Il a même publiquement mis en cause le gouverneur militaire de l'Ituri, le général Johnny Luboya, réclamant son départ. Une sortie d'autant plus sensible que les forces sous son commandement et celles de Luboya sont censées coopérer sur le terrain.
Patient Ligaudi, RFI, 5h35 à Bangui, en Centrafrique, où le gouvernement reconnaît que c'est bien, notamment pour des raisons médicales, que le président centrafricain Faustin Archange Touadéra se trouve en ce moment en Europe. Et des autorités de Bangui qui se veulent rassurantes, affirmant que le chef de l'État se porte bien et qu'un contrôle médical à Bruxelles était bien prévu à son programme. Précision et explication avec François Mazé.
Depuis samedi soir, des informations alarmistes circulaient sur l'état de santé de Faustin Archange Touadéra. Attendu ce lundi au sommet d'affaires États-Unis-Afrique en Angola, le président centrafricain aurait quitté Bangui samedi matin en urgence. Hier, le site spécialisé Africa Intelligence a fait état d'une évacuation via un jet privé médicalisé vers un hôpital de Bruxelles où sa situation se serait stabilisée. Le sujet a pris tant d'importance que le gouvernement a été contraint de communiquer. Son porte-parole Maxime Balalou l'affirme. Le président Touadéra participera mercredi au sommet du Gavi, l'Alliance mondiale pour les vaccins. Il a juste anticipé son départ pour effectuer des examens.
Je tiens tout de suite à vous rassurer. Le président de la République est parti pour faire un plaidoyer pour que l'Union européenne soutienne le Gavi. Il est parti un peu tôt parce que c'est aussi un humain. Il est parti faire ce qu'on appelle un check-up, c'est-à-dire quelques examens de routine, ce qui est normal pour tout être humain. À un moment donné, il faut toujours prendre soin de son corps. Il y a eu beaucoup de spéculations sur l'état de santé du président de la République, disant qu'il est gravement malade, ce qui est faux. Je l'ai eu au téléphone et je vous rassure que... Il n'y a pas de souci.
Cette communication ne convainc pas tout le monde. Certains y voient la preuve du délabrement du système de santé centrafricain. L'opposant Martin Zigele estime que la santé du chef de l'État est une question d'intérêt national. Il appelle à la transparence sur le sujet.
Une enquête qui avance au Kenya, à Nairobi, où la justice fait savoir qu'elle poursuit désormais 6 personnes, dont 3 policiers, pour la mort d'Albert Ojwang. Cet homme est décédé en détention plus tôt ce mois-ci. Il avait été arrêté après avoir accusé sur les réseaux sociaux le numéro 2 de la police kenyane de corruption. Walid Diallo.
Parmi ces 3 policiers, on retrouve le commandant du poste où était détenu Albert Ojwang. Un technicien a aussi été arrêté, soupçonné d'avoir effacé les vidéos de surveillance du commissariat. Pourtant, un nom est absent de ce communiqué, celui d'Eliud Lagat, le numéro 2 de la police kenyane, mis en cause par la victime dans ses publications et à l'origine de son arrestation. Quelques jours après les faits, il avait annoncé se mettre en retrait de son poste alors que débutait l'enquête. Une mise en retrait qui ne suffit pas pour la Commission kenyane des droits humains. Selon elle, Eliud Lagat est un suspect principal dans ce meurtre et devrait quitter définitivement son poste, être arrêté et poursuivi. L'affaire a déclenché une série de manifestations à travers le pays et de nombreux appels à la démission d'Eliud Lagat. L'émotion a été vive après les révélations de l'autopsie, qui a contredit la thèse du suicide avancée par le commissariat. Interrogé par les sénateurs kenyans, Douglas Kanja, le chef de la police kenyane, a admis que c'était un mensonge avant de présenter ses excuses.
Walid Diallo, dans l'actualité des pays africains ce matin également, la Guinée-Conakry et des avocats qui se mettent en grève 2 semaines sans tribunal pour protester contre l'enlèvement par des hommes armés la semaine dernière de maître Mohamed Traoré, par ailleurs ancien membre de l'Assemblée guinéenne de transition et qui avait été relâché au bout de quelques heures. L'ordre des avocats guinéens dénonce, je cite, des atteintes graves portées à la profession. La rencontre à Moscou entre Assimi Goïta et Vladimir Vladimir Poutine, le président de la transition malienne reçu au Kremlin, et deux hommes qui ont évoqué la coopération entre leurs deux pays, le Mali et la Russie. Coopération en matière de défense, d'économie ou encore d'énergie et de logistique. Des fonds russes au centre au Cameroun d'une plainte qui vient d'être déposée contre Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, accusé de détournement présumé de plusieurs centaines de millions de francs CFA. Une plainte qui émane de l'un des membres du comité exécutif de la Fédération. Il accuse l'ancien buteur des Lions Indomptables d'avoir fait déposer sur un compte personnel de l'argent payé par la Fédération russe de football et destiné à la FECAFOOT, donc la Fédération camerounaise. À Yaoundé, les précisions de Polycarpe Essomba.
Guy Baye Gatama annonce avoir porté plainte à la suite de la diffusion depuis la semaine dernière de documents financiers internes à la FECAFOOT et qui révèlent les dessous des montants négociés entre la Fédération camerounaise de football et son homologue russe et perçus par la partie camerounaise il y a près de deux ans à l'occasion d'un match amical ayant opposé les équipes nationales des deux pays. Ainsi, sur la foi de ces documents, la Fédération russe avait payé au Cameroun un montant net de 455 000 euros, soit environ 300 millions de francs CFA. Problème, et c'est tout l'objet de la plainte, l'argent a été déposé non pas dans les comptes de la Fédération, mais dans un compte privé dont le titulaire n'est autre que Samuel Eto'o. À la Fédération camerounaise de football, on reconnaît que cette transaction a bien eu lieu, mais le procédé aurait été validé par le comité d'urgence de l'instance au regard des contraintes liées au contexte géopolitique international et les sanctions économiques qui pèsent sur la Russie depuis 2014. L'argent aurait depuis été reversé dans les comptes de la Fédération, soutien notre source à la Fédération. Il appartient désormais aux membres de la commission d'éthique de la Fédération camerounaise de football de faire toute la lumière sur cette énième affaire qui secoue le football camerounais. Polycarpe Essomba, Yaoundé, RFI.
À Yaoundé, il est 5h41, une heure de plus ici à Paris.
Afrique Matin sur RFI.
Afrique Matin à suivre, le deuxième épisode de notre série de reportages sur la Coupe du Monde de rugby de 1995 en Afrique du Sud, remportée par les Sud-Africains. On s'intéresse ce matin justement à la finale que les Springboks ont gagnée contre la Nouvelle-Zélande. Passer de 45 à 30 milliards de dollars de budget, économie substantielle auxquelles s'astreignent les Nations Unies. Cela signifie des coûts de fonctionnement réduits et des coûts de hache dans l'aide humanitaire. Avec notre invité ensuite, on reviendra sur l'élection du Sierra Leone, Julius Maada Bio, à la tête de la CDAO, la communauté ouest-africaine. Mais tout de suite, les sports. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Xavier.
En football, l'Al Ahly du Caire quitte le mondial des clubs sur un feu d'artifice.
Les Égyptiens menés par un Wessam Abou Ali inarrêtable, auteur d'un triplé face aux Portugais du FC Porto. Mais un Al Ahly repris au bout du temps réglementaire sur un but de Pep à la 89e minute. 4 partout, score final. Élimination pour les deux équipes qui laissent Palmeiras et l'Inter Miami se qualifier pour les 8e de finale après leur nul de partout.
Et l'Inter Miami, prochain adversaire du PSG.
Le PSG vainqueur 2-0 des Seattle Sounders, début de Kvaratskhelia et Achraf Hakimi. Le prix Marc-Vivien Foé 2025, désigné homme du match, est fier, même si avec la fatigue, rien n'a été facile.
Il n'y a pas de match facile là. C'est la Coupe du Monde. On sait que chaque match qu'on va jouer, c'est plus difficile. Et on devait rester concentré de premier jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, on a montré les caractères et on a montré qu'on mérite de gagner. On sait que c'était pas facile venir là. Il fait beaucoup solaire, le terrain était un petit peu sec. On a travaillé bien, je pense, mais aussi la fatigue à la fin de la saison, ça sonne, mais on est prêt, on devait continuer à travailler, récupérer bien et continuer pour la suite.
Achraf Hakimi avec nos confrères de DAZN. Dans ce même groupe, l'Atlético de Madrid a été éliminé après sa trop courte victoire 1-0 sur Botafogo.
Et on termine ce journal, Antoine, avec un anniversaire. Il y a 30 ans, l'Afrique du Sud devenait championne du monde de rugby à 15.
Le 24 juin 1995, sur une victoire en finale de la Coupe du Monde 15-12 après prolongation face à la Nouvelle-Zélande. Un symbole pour le pays, à l'époque dirigé depuis peu par Nelson Mandela. Et surtout une Coupe du Monde fondatrice pour les Springboks, Cédric de Oliveira.
Avant 1995, l'Afrique du Sud n'avait jamais participé à une Coupe du Monde. Alors au moment d'aborder la finale face aux All Blacks de l'impressionnant John Alomou, les Springboks n'étaient pas franchement favoris. Pour Bakary Meïté, ancien international ivoirien, ils ont donc réussi à inverser le rapport de force.
C'est la belle histoire, c'est un peu France 98, où tu te retrouves face au Brésil, la meilleure équipe du monde. Et ben, c'est un peu ça, les All Blacks qui dominent ce sport. C'est l'équipe la plus aboutie, c'est ceux qui ont le plus d'expérience. Et pourtant, bah, il tombe face à ce pays qui organise sa Coupe du Monde chez lui. C'était vraiment ça, ouais.
Cette finale contre des Néo-Zélandais décevants n'a pas été la plus enthousiasmante de l'histoire, mais elle s'est jouée en prolongation. Aucun essai. C'est grâce à un drop victorieux du demi d'ouverture Joel Stransky que l'Afrique du Sud s'est finalement imposée 15-12. Un succès inspirant pour les générations suivantes.
C'était un virage très important. Il y avait un côté très précurseur. Et ça a posé un jalon. Ils sont devenus une nation majeure de ce sport en étant le challenger numéro 1 des All Blacks. Le sommet aujourd'hui du rugby mondial, c'est Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud.
Après 95, les Springboks ont ensuite raflé les Coupes du Monde 2007, 2019 et 2023. Encore une fois face aux All Blacks en finale. Aujourd'hui, avec 4 trophées, ils sont les plus titrés devant leurs rivaux néo-zélandais.
Un sujet signé Cédric de Oliveira.
Merci Antoine Grenier. Cette finale de la Coupe du Monde de rugby 1995 et son impact social et politique, nous vous la faisons revivre toute cette semaine. Série de reportages depuis hier et jusqu'à demain. Et ce matin, pour RFI, Valentin Huguet retourné sur les lieux du match au stade Ellis Park, accompagné de l'un de ceux qui ont foulé la pelouse en ce jour-là et participé à la victoire contre la Nouvelle-Zélande.
Nous avançons dans un long couloir chargé d'histoire. Il relie les vestiaires à la pelouse. Et 30 ans plus tôt, le 24 juin 1995, le jour de la finale, Rudolf Straoli l'empruntait en tant que joueur.
J'étais impatient d'arriver au bout de ce couloir.
À l'époque, il entre sur le terrain avec le numéro 19 sur le dos.
Le président était assis là, nous on sentait le stade vibrer.
Devenu un temps entraîneur des Springboks, l'ancien joueur de près de 2 mètres dirige aujourd'hui le club de Johannesburg, les Lions, un club basé à Ellis Park. Ce stade de la finale 1995, c'est donc devenu son bureau.
Après avoir soulevé la coupe, je voulais jouer un plus grand rôle, donc je suis fier de m'occuper du stade et de vous montrer notre musée aujourd'hui. Là, c'est moi avec ma signature.
Un musée qui retrace l'histoire du rugby sud-africain, avec évidemment des photos de Nelson Mandela, qui a fait de cette première victoire en Coupe du Monde un tournant pour l'Afrique du Sud.
Quand il est arrivé avec le maillot numéro 6, c'était une surprise, on était tous nerveux, mais positivement.
Sam Nianizo est salarié du club et nous accompagne le temps de la visite. Et même si ce fan de rugby travaille avec le champion du monde depuis des années, il n'est jamais à court de questions.
Rudolf, sans Mandela, tu penses que vous auriez gagné ?
Il a joué un rôle central. Son projet pour le pays nous a évidemment motivés.
Moi, j'avais 11 ans. J'ai regardé la finale sur une petite télévision. Les gens sont sortis dans la rue, ils klaxonnaient. Blanc et noir se prenaient dans les bras. Et quelques années plus tard, quand Rudolf est devenu coach, mon père a été recruté pour travailler avec. C'est lui sur cette photo.
Le rugby, c'est un sport qui peut changer une société.
Pour un gars comme moi, ça a ouvert tellement de portes. Je n'oublierai jamais cette finale.
30 ans plus tard, l'Afrique du Sud reste un pays fracturé et particulièrement inégal. Rudolf Straoli, fidèle à la mentalité de 1995, continue donc d'utiliser le rugby comme un vecteur d'unité et d'espoir pour les Sud-Africains. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Et que reste-t-il aujourd'hui de cette épopée pour les jeunes sud-africains ? Ce sera le troisième et dernier épisode de cette série de reportages Afrique, demain sur RFI.
RFI, toute l'actualité.
Xavier Besson.
Dans une dizaine de minutes, le prochain journal sur RFI, nous appellerons notamment notre correspondant à Téhéran après que Donald Trump a annoncé que l'Iran et Israël auraient accepté un cessez-le-feu qui doit déboucher, dit le président américain, sur la fin officielle de cette guerre qui dure depuis le 13 juin, conflit dans lequel les États-Unis sont intervenus directement en bombardant des sites nucléaires iraniens dimanche. Mais selon le chef de la diplomatie iranienne, il n'existe pas d'accord à ce stade, mais il précise tout de même que Téhéran n'a pas l'intention de poursuivre ses frappes si Israël arrête son agression. De son côté, Israël n'a pour l'heure rien confirmé. Et côté terrain dans les airs, quelques heures auparavant, Téhéran lançait des missiles en direction de la base militaire américaine au Qatar. Pas de dégâts rapportés et des tirs vers Israël et vers Téhéran sont rapportés ce matin. Cette actualité est largement développée dans nos éditions. Ce matin, plusieurs invités à écouter sur notre antenne, notamment également l'ambassadeur d'Iran en France. Entretien tout à l'heure avec Arnaud Pontus. Rendez-vous à 6h20, temps universel. Dans l'actualité également, à La Haye, aujourd'hui et demain, se tient un sommet de l'OTAN où l'organisation va demander à ses 32 membres d'augmenter leur budget militaire. Donald Trump, qui sera présent, réclame d'allouer au moins 5% du PIB à la défense. Visiblement, un compromis a été trouvé. Il ne s'agit pas d'une situation temporaire, c'est structurel, prévient le numéro 2 des Nations Unies, l'ONU, qui se serre la ceinture, conséquence à la fois du retrait des États-Unis et d'un certain nombre d'impayés de la part d'autres États membres. Le secrétaire général de l'ONU a lancé au mois de mars un grand programme de réduction des coûts de fonctionnement et de diminution également de l'aide humanitaire. C'est le dossier Afrique Économie de Charlotte Cossé.
Cette humanitaire préfère rester anonyme. Elle travaille dans une mission de l'ONU. Elle a été prévenue le 1er juin que son contrat serait résilié dès la fin du mois.
Je pense que personne ne s'attendait à ce que les choses prennent une tournure aussi radicale. Des milliers de personnes ont été licenciées. Il y a peut-être 80 expatriés, mais il y a aussi des centaines de salariés locaux. Les gens sont à juste titre extrêmement contrariés et frustrés, car l'effet sur la vie des gens au niveau local est très profond. À l'heure actuelle, et c'est sans doute endémique aux Nations Unies, il y a aussi un manque de communication directe, ce qui rend certains processus inutilement opaques.
La réduction substantielle des aides américaines, une crise de liquidité au sein du système onusien et un besoin de réforme générale justifient ces coupes drastiques. Thomas Burns est à la tête de Market Impact, un cabinet de conseil humanitaire. Il suit la refonte en cours et tente de compiler l'ensemble des données dispersées.
Le système humanitaire mondial doit être réformé, ça ne fait aucun doute. Mais ce à quoi nous assistons est très brutal. Au sein des Nations Unies, le Programme alimentaire mondial, la plus grande agence humanitaire, a dû supprimer 25 à 30% de ses effectifs mondiaux. L'Organisation mondiale de la santé a, elle, dû réduire de 25% ses programmes d'urgence. Il n'y a pas de temps pour la négociation, car dans de nombreux cas, les activités ont été immédiatement gelées. C'est pourquoi l'impact est si dévastateur.
Les conséquences sont directes sur les emplois et les activités humanitaires, mais elles touchent également l'ensemble des sous-traitants locaux ainsi que l'économie des localités dans lesquelles ces travailleurs étaient basés. Jacques Moukena, spécialiste gouvernance et économie à l'Institut congolais Ebouteli.
Leur départ va forcément avoir un impact. Il n'y aura plus de demandes en tout cas sur les logements qui sont beaucoup plus élevés. Il n'y aura peut-être plus de demandes sur les produits qu'ils ont introduits. La liste est très longue en fait. Je peux prendre juste l'exemple des Nations Unies. Roulent généralement en 4x4. Et donc, quand elles arrivent dans un endroit comme Calibi, où il n'y avait pas forcément de garage ou des boutiques de pièces détachées pour des 4x4, il n'y aura plus une forte demande comme avant. C'est un peu ça. Y compris tout ce qui est service de sécurité, parce qu'ils veulent généralement habiter dans des endroits beaucoup plus sécurisés. Il n'y aura peut-être plus une forte demande de tous ces services-là. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont changer localement.
Selon les modélisations internes révélées par The Economist, le système onusien pourrait se retrouver à court de liquidités dès le mois de septembre.
Charlotte Cossé à New York, il est minuit 52. 4h52 à Abuja, au Nigeria. Et avec notre invité, on revient maintenant sur l'élection avant-hier à la tête de la CDAO du président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio. On en parle avec le chercheur sénégalais Pape Ibrahima Kan, spécialiste des questions régionales en Afrique. Pourquoi ce choix? Quelle priorité pour un chef d'État qui a choisi de ne pas briguer de troisième mandat? Christophe Boisbouvier lui a d'abord demandé si Julius Maada Bio serait vigilant sur les questions constitutionnelles.
Il est obligé d'être vigilant parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui est le gardien du respect de toutes les règles communautaires que la CDAO s'est donné en la matière. Il a lui-même décidé de ne pas faire un troisième mandat. Et donc, son rôle en tant que président en exercice, c'est de s'assurer au moins que la CDAO respecte la démocratie. Ce qui s'est passé au Togo, ces manipulations de constitution, un président qui quitte le poste de président pour devenir premier ministre simplement pour rester au pouvoir, c'est des choses qui ne doivent pas être acceptées dans une région. La CEDEAO doit montrer cela aux dirigeants de manière à ce que le déficit de confiance qu'il y a entre la CEDEAO et les populations, que ce déficit-là s'amenuise.
Et si, contrairement à sa promesse initiale, le général Mamadi Doumbouya se présente à la future présidentielle en Guinée, est-ce que vous pensez que son voisin de Sierra Leone sortira le carton jaune ?
Mais cette question, ça ne relève pas seulement de la CEDEAO, ça relève aussi de l'Union africaine. Si vous vous rappelez, il y a deux présidents militaires qui ont fait leur retour sur la scène africaine grâce à l'Union africaine. Il y a le président du Tchad qui a fait un coup d'État et qui maintenant est accueilli au sommet de l'UA. Vous avez le président du Gabon qui a fait un coup d'État et qui a été adoubé par ses pairs. Donc, ce n'est pas seulement une question de la CEDEAO, c'est aussi une question de l'Union africaine. Il faut que l'on ferme définitivement l'ère des régimes militaires en refusant totalement cette civilisation des régimes militaires. Ce n'est pas dans l'intérêt de la démocratie en Afrique.
Le chercheur Papi Ibrahima Kane, l'invité ce matin de Christophe Boisbouvier. Entretien complet dans trois quarts d'heure et sur RFI.fr. Et puis avant de retrouver Andréane Mellard pour le début d'RFI Matin, notre crochet quotidien par le Gondwana. Maman, vous nous dites qu'au cinéma, on n'a pas encore fait de film sur les braquages à la gondwanaise.
Oui, je mettrai ma main à couper que tous les cinéphiles qui m'écoutent en ce moment même ont déjà vu au moins un film dont l'intrigue tourne autour d'un braquage. Des films comme Inside Man, braquage à l'anglaise, braquage à l'italienne, braquage à l'allemande, et j'en oublie sûrement. Aujourd'hui, nous allons donc nous asseoir dans la pénombre d'une salle de cinéma et regarder la version la plus aboutie de tous ces films de braquage, braquage à la gondwanaise. Un film policier sans scène de braquage, eh ben c'est comme un match de football sans but. Des frites sans ketchup et un deuxième mandat sans troisième mandat. La force du cinéma est qu'il nous a rendu le braquage sympa. Tu regardes un film, tu suis toute la genèse d'un braquage, le casting de l'équipe des braqueurs, la préparation, l'exécution, etc. Tu vis avec les braqueurs, tu partages leurs espoirs de réussite, tu trembles avec eux et tu en arrives à souhaiter que la police ne les attrape pas. Bah oui, par la magie du cinéma embarqué, eh bien les policiers deviennent les méchants et les braqueurs, ben c'est les gentils. Mais avant d'aller plus loin, pour tous ceux d'entre vous qui n'ont jamais vu de film de braquage, et j'en doute, eh ben il est nécessaire de définir ce qu'est un braquage. Un braquage, c'est simple. C'est quand des gars déboulent dans une banque sans autre intention que de faire un gros retrait, sans donner le numéro de leur compte bancaire, sans remplir aucun formulaire de retrait. Ils crient juste « Oh les mains, c'est un hold-up !» C'est ça, un braquage de banque. En très très démocratique république, nous avons inventé un nouveau type de braquage, le braquage à la gondwanaise. Un genre que tu ne vois pas au cinéma, mon ami, mais plutôt à la télé, dans les journaux télévisés, sans vraiment te rendre compte que tu assistes à un braquage bien organisé. Le scénario est très simple. Un gars entre dans une banque et braque tout un pays. Voilà, c'est tout. Pour faire son braquage à la gondwanaise, ben le gars n'a même pas besoin d'enfiler une cagoule ou un masque pour cacher son visage. Non. C'est à visage découvert qu'il entre dans la banque grâce à des élections, un coup d'État ou une rébellion. Et avec sa bande, ou plus précisément avec son entourage, ben il fait son braquage à la gondwanaise tranquillement, sans se presser, sachant que la police n'arrivera jamais puisque la police... Eh ben la police c'est lui-même. Le braquage à la gondwanaise, c'est vraiment génial, mon ami. C'est pas vu, pas pris. Parce qu'il se fait avec la complicité du circuit financier international qui t'aide à sortir ton butin du pays. Direction les paradis fiscaux pour acheter tout ce que tu veux. Des villas, des hôtels particuliers et tout ce qui brille. C'est l'une des différences avec le braquage classique. Le braqueur ne ressort pas de la banque avec des sacs d'argent en courant et en tirant dans le tas. Non, il ressort très tranquillement, loi d'amnistie votée, les mains dans les poches, l'argent braqué bien à l'abri, très très loin du pays. À demain.
À demain. Merci Maman. Merci aussi à Pauline Berthélémy qui était ce matin à la réalisation de cette édition d'Afrique Matin. Céline Pellarin à la rédaction en chef. Et vous le savez, c'est le moment où l'on passe le relais à RFI Matin, à Andréane Mellard. Et Andréane qui n'est pas encore avec nous, qui vient d'arriver. Bonjour Andréane Mellard.
Bonjour Xavier, bonjour à toutes et à tous et bienvenue, bientôt 7h, c'est le début des RFI matin, 3h d'infos, de chroniques, de reportages et ce matin on va bien sûr suivre attentivement ce qu'il se passe au Moyen-Orient alors que Donald Trump a annoncé cette nuit un cessez-le-feu entre l'Iran et Israël. On y revient dans le journal à suivre avec nos correspondants, nos invités ce matin et notre live sur notre site.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Au Gabon, c'est un projet de loi qui soulève des inquiétudes. Faut-il réduire le nombre de partis politiques en durcissant les critères de création ? Quelles seront les conséquences sur le paysage politique ? Nous lançons le débat.
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À tout à l'heure sur RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
cuisiner en Afrique et en Espagne. Ensemble, nous allons lier les sauces. Rencontre avec des femmes chefs.
Demain,
quelle place pour l'éducation dans l'aide internationale ? Pourquoi l'école est le parent pauvre des solidarités ?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 337 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.